c'est la chronique européenne de Geneviève Saint-Hubert pour le Centre Europe Direct de la Maison de l'Europe de Toulouse-Occitanie. Aujourd'hui, nous allons parler Brexit. En effet, vous le savez, nous sommes à un point crucial des négociations et nous avons l'avantage d'avoir cette question exposée par Isabelle Jégouzeau, qui est la chef de représentation de la Commission européenne en France. Et elle va tout nous dire sur où nous en sommes et sur le chemin qui reste à accomplir. Je lui donne la parole tout de suite. Isabelle, pouvez-vous nous dire ce qu'il y a de nouveau par rapport au Brexit et qu'est-ce que les citoyens peuvent comprendre de ce qu'on appelle des accords techniques qui seraient acquis pour ce Brexit ?
Peut-être d'abord rappelons le cadre général. Le Royaume-Uni doit quitter l'Union européenne le 29 mars prochain. Cette date est impérative puisqu'elle est prévue par le traité. Et ce sur quoi nous sommes en train de négocier, c'est l'accord de retrait du Royaume-Uni. Ce sur quoi on a parlé, donc c'est cet accord de retrait, plus une déclaration sur la relation future. Mais nous ne sommes pas encore entrés dans la négociation de fond sur cette relation future et nous ne négocierons ce que sera cette relation future que ultérieurement, après que le Brexit lui-même soit entré en vigueur. Alors, on travaille d'abord sur un retrait ordonné, ce qu'on appelle un retrait ordonné du Royaume-Uni, pour faire en sorte que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne de manière propre, avec le moins de dommages possible pour les uns et les autres, et de manière organisée. Alors pour ça, on a négocié en plusieurs phases. D'abord, on a négocié, au niveau de l'Union européenne, on avait quelques priorités. La première des priorités, c'était les droits des citoyens. Faire en sorte que les citoyens de l'Union européenne qui se trouvent au Royaume-Uni et les citoyens britanniques qui se trouvent dans l'Union européenne puissent se retrouver dans une situation sûre et ne pas être perdants de cette sortie. Alors, la solution qui a été trouvée, qui est actée dans cet accord de retrait, qui n'est pas encore définitivement approuvé, je crois que c'est ce qu'il faut vraiment dire, mais le point là-dessus, qui ne fait pas trop de difficultés, puisqu'on est d'accord là-dessus déjà depuis l'année dernière, c'est que tous les ressortissants, soit britanniques dans l'Union européenne, soit de l'Union européenne au Royaume-Uni, garderont leurs droits tels qu'ils ont été acquis à la fin de la période de transition qui se situera le 31 décembre 2020. Donc tous ceux qui ont acquis le droit de rester sur le territoire britannique, s'ils sont européens ou européens s'ils sont britanniques, ces droits acquis à cette date-là seront conservés pour le restant de la vie des gens concernés. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'était l'aspect financier. On travaille dans l'Union européenne avec des cadres budgétaires pluriannuels. Dans ces cadres budgétaires pluriannuels, le cadre actuel est pour la période 2014-2020. Et donc, nous avons programmé des financements pour l'ensemble de cette période, 2014-2020. Le Brexit ayant lieu en mars 2019, la période n'est pas achevée. Donc, ce sur quoi on s'est mis d'accord également, c'est que le Royaume-Uni, qui s'est engagé sur cette période totale, continue à payer jusqu'au bout et continue à bénéficier jusqu'au bout. Donc les engagements qui ont été pris en commun sont honorés en commun. Donc sur ce sujet, nous sommes également d'accord. Parmi les engagements, il y a aussi des choses plus minimes, par exemple la retraite des fonctionnaires britanniques jusqu'à temps que ceux-ci partent définitivement. Bon. Donc ça, ce sont les deux points extrêmement importants. Le sujet qui a été très difficile dans la négociation, bon, il y a également le sujet de la gouvernance et du rôle de la Cour de justice, sur lequel on a aussi trouvé un accord, mais le sujet qui a été le plus difficile et qui a fait blocage jusqu'au bout, c'est le sujet de la frontière irlandaise. Donc à l'intérieur de l'Irlande, entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. Dans le, vous savez que le royaume, enfin, l'Irlande a longtemps été dans une situation de conflit extrêmement meurtrier, qui ont abouti à la fin des années 90 au Good Friday Agreement, aux accords du Vendredi Saint, par lequel on a décidé qu'il n'y ait plus de frontières au sein de l'Irlande. C'était d'autant plus facile que les deux pays étant dans l'Union européenne, on n'avait pas besoin de frontières. À partir du moment où le Royaume-Uni sort, nous nous sommes mis d'accord aussi bien du côté britannique que du côté européen pour éviter le retour d'une frontière, pour préserver les accords du Vendredi Saint, et parce que pour l'économie irlandaise, il est absolument, des deux côtés, absolument essentiel qu'on puisse avoir une fluidité des relations entre les deux côtés. Le sujet, c'est que à partir du moment où l'Irlande du Nord est également en partie du Royaume-Uni, nous, du côté de l'Union européenne, nous voulons absolument préserver le marché unique et faire en sorte d'avoir le contrôle de ce qui rentre dans l'Union européenne via l'Irlande. À la fois des contrôles réglementaires, par exemple sur les normes sanitaires ou sur les normes de sécurité. Par exemple, l'Union européenne a des normes de sécurité sur les jouets. On veut absolument qu'elles soient respectées dans l'Union européenne et ce qui rentre via l'Irlande soit conforme. Et puis, à partir du moment où on n'est plus dans le Royaume-Uni avait dans un premier temps dit qu'il ne souhaitait pas être dans l'union douanière, et donc on avait une potentialité de droits de douane. Ce sur quoi on s'est mis d'accord, c'est que le Royaume-Uni resterait dans l'union douanière. Ce qui veut dire qu'aux frontières extérieures de l'Union européenne, le Royaume-Uni et l'Union européenne appliqueront, si cet accord prospère, le même tarif extérieur commun et les marchandises du Royaume-Uni rentreront dans l'Union européenne sans droit de douane. On a sorti ça d'un certain nombre de mesures réglementaires, notamment dans le domaine de l'environnement, dans le domaine social ou dans le domaine des aides d'État, pour faire en sorte de maintenir ce qu'on appelle dans un jargon technique le level playing field, c'est-à-dire l'équivalence des conditions pour éviter des ruptures de concurrence qui ne seraient pas souhaitables. Donc voilà, on s'est mis d'accord avec le Royaume-Uni sur pas de frontières à l'intérieur du royaume de l'Irlande. Le Royaume-Uni est dans l'union douanière et l'Irlande, pour qu'il n'y ait aucune frontière intérieure à l'Irlande, il y aura un certain nombre de contrôles, mais qui sont des contrôles dématérialisés et qui se situent sur dans les entreprises ou sur les marchés, donc non pas du tout à la frontière entre le Royaume-Uni et l'Irlande, des contrôles, un certain nombre de contrôles réglementaires et phytosanitaires pour faire en sorte de vérifier ce qui rentre dans le marché unique européen. Voilà ce sur quoi on s'est mis d'accord. C'est un accord qui se fait au niveau technique. Bon, il y a encore un certain nombre d'autres éléments. C'est un très, très gros accord, hein. Il fait 500 pages. Il règle également toute une série d'autres sujets. Il y a en particulier Gibraltar. Donc, il y a beaucoup. Alors,
justement, Gibraltar, est-ce qu'on a des éléments ou pas encore ?
Alors, sur Gibraltar, il y a deux choses. Il y a, d'une part, un accord de l'Union européenne avec le Royaume-Uni, et puis il y a surtout de très nombreux accords bilatéraux entre l'Espagne et le Royaume-Uni directement, l'ensemble formant la relation future avec Gibraltar.
Mmh. Très bien.
Et ça fait partie du paquet, et ça fait partie du paquet sur lequel les négociateurs ont donné un accord. Après, la procédure est la suivante. Il faut que ce paquet de négociations soit accepté de part et d'autre. Donc, côté européen, il y a un Conseil européen extraordinaire qui a été convoqué pour le 25 novembre. Le Parlement européen doit également se prononcer. Les premières rencontres ont eu lieu par Michel Barnier le lendemain de l'accord, donc hier. Bon, le Parlement européen, pour le moment, est plutôt content. Et puis, il y a ce qui va se passer du côté du Royaume-Uni, où il faut que Madame May ait l'accord de son Parlement pour ratifier cet accord.
Globalement, sans rentrer dans les détails, est-ce qu'on peut dire que là, le plus gros effet, où il reste encore de gros paquets, comme vous dites, à négocier?
Alors, techniquement, sur l'accord de sortie, le plus gros est très largement frais. Ce n'est pas du tout la fin de l'histoire, d'un point de vue strictement technique d'abord, je viendrai au niveau politique ensuite, mais ce n'est pas du tout la fin de l'histoire au niveau technique, parce qu'il faudra, il va falloir maintenant négocier la relation future. Voir comment, sur toute une série de sujets, le Royaume-Uni et l'Union européenne coopèrent. Ça peut prendre la forme d'un accord de libre-échange, d'un certain nombre d'accords sectoriels pour la mobilité des véhicules et de l'ensemble des moyens de transport. Il y a des questions d'accords de sécurité sociale. Il y aura également tout un bloc autour de la sécurité, la coopération policière et judiciaire et des relations internationales. Donc l'accord futur aura quatre branches, si vous voulez. Et puis, on aura aussi un certain nombre d'accords bilatéraux. Par exemple, si le Royaume-Uni veut, sur une base de contribution volontaire, continuer à participer au programme de recherche, continuer à participer au programme Erasmus, ça existe déjà. On a ça, par exemple, pour la Norvège ou pour un certain nombre de pays qui volontairement contribuent et participent à nos échanges. Et puis, on aura également des dispositions de reconnaissance unilatérale, par exemple, dans certains domaines financiers, on peut donner, le Royaume-Uni va perdre son passeport financier, mais pourra bénéficier d'un certain nombre d'accords de reconnaissance. Et par exemple, dans le domaine de la protection des données aussi, on a des outils qui nous permettent de donner une décision d'adéquation pour le Royaume-Uni. Donc tout ça, c'est ce qui reste à faire. Et donc c'est énorme. Et c'est uniquement au niveau technique. Après, on a le sujet politique. Et le sujet politique, lui, est évidemment difficile. Il est des deux côtés, dans les mains de l'Union européenne pour le accord de retrait et dans les mains du Royaume-Uni selon ses propres procédures. Donc Madame May doit consulter, doit avoir l'accord de son Parlement. On verra ce qui va se passer. Et ensuite, on passera à la deuxième phase qui est donc l'accord de la négociation. Future. Sur la négociation future, sur l'accord futur, il y a un point qu'il est important de mentionner, c'est que on va négocier ce qu'elle sera, mais la relation future fera l'objet d'une ratification, non seulement par le Parlement européen, mais par chacun des États membres. Donc le Parlement français, par exemple, aura son mot à dire sur ce qui sortira de ces négociations à échéance 2020.
Très bien, je crois que là, merci beaucoup. Vous avez fait un point à la fois exhaustif sur ce qui a été fait et quand même une vue élargie de ce qui reste à faire. Et on voit bien que c'est quelque chose d'assez important et les citoyens français, comme ça, pourront avoir une meilleure idée de ces négociations, parce que parfois, on entend effectivement à la radio, à la télé, des accords techniques. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir donné ce détail. Nous suivrons tout cela avec un grand intérêt.
Merci à vous.
Voilà, j'espère que ces informations vous auront éclairé sur cette question difficile du Brexit. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, tchuss, arrivederci, bye bye, adi chats.